Radio Okapi. Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal. Commençons par les titres. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa demande au gouvernement d'honorer ses engagements tels que signés dans l'accord de Bibois. De son côté, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi, affirme que le gouvernement a respecté l'engagement du premier semestre signé avec les professeurs d'université. Le décaissement sera bientôt fait pour le deuxième semestre jusqu'à la fin de l'année. Le communicateur de l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo appelle les parents à disponibiliser leurs enfants de 0 à 5 ans pour la vaccination contre la poliomyélite dont la campagne démarre ce jeudi. Il demande aux parents de ne pas faire attention aux fausses informations qui risquent de les décourager. Le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. À cette occasion, nous recevons comme invité le professeur Nopes Kibiswa, spécialiste en analyse, résolution des conflits et prévention du génocide, qui s'exprime sur les conflits en Afrique et propose des solutions. Mesdames et messieurs, bonjour. L'APUKIN, association des professeurs de l'université de Kinshasa, demande au gouvernement d'honorer ses engagements tels que signés dans l'accord de Bibois. Dans une déclaration à la presse dimanche 22 mai ici à Kinshasa, David Lubo, professeur à l'université de Kinshasa et président de cette association syndicale, affirme que dépassé le mois de juillet prochain, sa structure prendra toutes ses responsabilités pour permettre aux professeurs d'obtenir gain de cause. David Lubo l'a dit à Paul Matendo.
L'accord de Bibois, comme nous l'avons toujours dit, a cessé de particulier. C'est le fait que tout est daté. C'est en avril, on n'a rien eu par rapport à ce qui était prévu. Nous disons en juillet, comme c'est signé, nous devions toucher l'indemnité de recherche qui correspond au montant X fois 12 mois, payable en une fois, en une mensualité, comme les spécialistes de la paix nous avaient dit. Alors si cela n'est pas fait, la PUKIN prendra toutes ses responsabilités et nous avons peur que l'année soit perturbée. S'il faut encore ajouter, il a été convenu aussi que les véhicules devraient être distribués à partir du mois d'avril. Et nous avons même rencontré les concessionnaires qui nous avaient convaincus qu'il avait 110 marques luxe et qu'il attendait les listes. Mais jusqu'à ce jour, je ne sais pas si vous avez vu un seul véhicule qui a été remis à un professeur dans le cadre de ce projet-là. L'élite ne va pas se laisser faire. On agira dans un sens comme dans un autre.
En réaction à cette déclaration de l'APUKIN, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi Butondo, affirme que le gouvernement a respecté l'engagement du premier semestre signé avec les professeurs d'université. Le décaissement sera bientôt fait pour le deuxième semestre jusqu'à la fin de l'année. Le ministre Muindo Nzangi a été joint au téléphone par Aubin Abedi Djuma.
Bon, moi, je ne suis pas au courant d'une quelconque menace. Tout ce que je sais, c'est que nous avons signé un accord avec les RAPICO, cet accord qui concernait les professeurs d'université. Nous avons respecté le premier engagement que nous avions pris avec les professeurs d'université et même ont demandé que nous ne puissions pas faire la publicité de cet engagement qui a été pris pour le premier semestre. On va aussi faire le décaissement pour le deuxième semestre jusqu'à la fin de l'année. Donc, nous avons respecté l'ensemble des engagements que nous avions pris à 10 mois pour les professeurs d'université. Pour ce qui concerne les scientifiques, je crois que vous avez suivi le message. Ils ont même dit que la situation au niveau des paiements, des ajouts que nous avions définis dans le cadre de cet accord, ont été bel et bien touchés par les agents. Donc je ne vois pas pourquoi la PUKIN qui n'était pas concernée par cette situation va devoir s'alarmer à moins qu'il n'y ait autre chose derrière.
Restons toujours dans l'enseignement. Deuxième jour hier mardi de passation des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du pays. À Béni, les candidats rencontrés au sortir des salles d'examen jugent plutôt positifs les épreuves de dissertation au premier jour et celles des cours d'option hier mardi. Du côté sécuritaire, des policiers et militaires ont été déployés dans les centres de passation d'examen. Reportage Guylaine Cassassia.
Juste à l'entrée du centre Béni 2 dans la scène de l'Institut Bungu, un impressionnant dispositif sécuritaire nous accueille. Deux militaires et policiers sont commis à l'entrée et aux alentours du centre. Au niveau de la cour scolaire, c'est plutôt calme. On cambrine et sort des salles de passation d'examen. Deux heures plus tard, le premier a terminé sortir de la salle. Jusqu'à là, leurs impressions sont bonnes.
Nous venons d'effectuer une bonne passation. Aujourd'hui, c'était le jury traditionnel. Alors quand nous sommes des chimistes industriels, nous avons fait les cours purement chimiques. Nous venons de penser bonne passation, dans de bonnes conditions. C'était facile parce que nous étions bien concentrés. C'était bien sécurisant.
Après la dissertation, quand même ça va aller. Aujourd'hui, on a bien travaillé, on s'est foncé. Vraiment, ça ira.
Hier et aujourd'hui, j'ai valu l'examen moyennement. Nous avons fait l'intégration écrite.
De la ville comme dans le territoire de Béni, aucun incident majeur n'a été enregistré jusqu'ici. Pas d'absence, des cahiers du terme sont disponibles à temps, nous ont fait remarquer les chefs de la sous-division de Béniville et de Boulongo ainsi que Ouija dans les territoires. Béni, Guylaine Gassassia, Radio Okapi.
Épreuve hors session de l'examen d'État exercice 2021-2022 dans la province éducationnelle Kwilu 2, basée dans la ville de Kikwit, au Kwilu, près de 35 000 candidats ont été enregistrés au total. Au regard de cet effectif, l'inspecteur principal provincial parle de la déperdition de plusieurs candidats par rapport aux inscrits de l'année dernière. Cependant, il signale une augmentation du nombre des filles cette année en comparaison de l'année passée, pendant que le nombre des garçons inscrits a baissé. Les propos de Justin Dieudonné Nimba Vovou ont été recueillis par Irène Boma.
Quant à l'effectif attendu pour notre province éducationnelle, il est de 34 143 candidats inscrits, dont 15 072 filles, soit les filles représentent 44,1%. En comparaison aux inscrits de la hors session écoulée, c'est-à-dire 2021, nous observons une diminution des effectifs de l'ordre de 143 candidats de moins, soit 0,42% dans l'ensemble. Les filles, quant à elles, de façon particulière, ont connu une augmentation de 779 candidates, soit 5,5% par rapport à l'effectif de la session écoulée. Pendant que les garçons ont connu une diminution considérable de 922 candidats, soit 4,6%, ce qui doit nous interpeller tous. La ville de Kikwit, chef-lieu de notre province éducationnelle, qui nous reçoit avec ses 32 centres, elle a 10 146 candidats, dont 4 888 filles, soit 48,2%.
L'inspecteur provincial du Kwilu 2, Justin Dieudonné Simba Vouvou, justifie l'augmentation de l'effectif des filles inscrites cette année par la prise de conscience par les filles et les parents après des intenses campagnes de sensibilisation qui ont été menées dans cette province éducationnelle, leur montrant l'importance des études pour une fille. Selon lui, il y a eu négligence du côté des garçons. 5 écoles de Kinshasa ont remporté la 2e édition du prix de littérature jeunesse dénommé Prix Didier Mumengi. Il s'agit du complexe scolaire Nyota, lycée Bosangani, lycée Boende, complexe scolaire Les Petits Mignons et le lycée Tobongisa. Ces écoles ont été sélectionnées parmi les 10 écoles participantes. Ces lauréates ont reçu plusieurs prix dont des ordinateurs, des mini-tablettes, des livres ainsi que de l'argent. Ce concours littéraire est une initiative de l'ASBL, Nous et le Livre. Selon Madame Jenny Kilele, présidente de cette structure et initiatrice de ce concours, l'objectif poursuivi est d'encourager la jeunesse à la culture du livre. Elle explique également les raisons qui ont motivé le choix du nom de Didier Mumengi attribué à ce titre. On l'écoute au micro de Dandy Bompela.
Ce concours se veut un cadre d'émulation. Vous savez, nous avons voulu créer cette émulation, de voir comment il y a eu 10 écoles qui ont concouru à ces prix, mais 5 seulement ont été sélectionnées comme lauréats. C'est pour donner le goût à la lecture aussi. On a fait exprès voir les cadeaux qui ont été décernés pour dire que lorsque on lit, on devient meilleur. Lire pour réussir, c'est-à-dire lisez, écrivez, vous aurez encore des cadeaux, des prix pour la prochaine édition. Avec le prix de la littérature jeunesse dénommé prix Didier Mumengi, c'est une manière d'honorer nos héros parce qu'on a toujours tendance à honorer des gens qui sont déjà presque partis, qui ne sont plus avec nous. Nous avons pris un modèle pour nous qui est monsieur Didier Mumengi, qui est vraiment ancré dans la littérature, qui est même la main de la littérature. Et voilà, il a écrit 23 ouvrages, c'est beaucoup. Pourquoi ne pas l'honorer?
Le communicateur de l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo appelle les parents à disponibiliser leurs enfants de 0 à 5 ans pour la vaccination contre la poliomyélite, dont la campagne démarre ce jeudi. Damouloulou Avola dit au cours d'un briefing organisé lundi par tous les acteurs gouvernementaux et des partenaires impliqués dans cette campagne. Il appelle ainsi la population à ne pas se fier aux messages d'intoxication propagés par des inciviques au sein de la communauté. Les propos de Damo Luluavo ont été sélectionnés par Sadiki Aboubakar.
Il y a beaucoup de gens qui intoxiquent parti par là, en rapport avec cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Il y a des gens qui pensent déjà qu'on veut donner le vaccin anti-Covid aux enfants. Alors que la vraie information n'est pas celle-là. Il y a la vaccination contre Covid-19 et la vaccination contre la poliomyélite. Ça, c'est le vrai message que nous devons donner à notre population. Et le vaccin n'est pas différent du vaccin que les enfants ont toujours reçu lors de la campagne de routine. Donc, ce n'est pas un vaccin nouveau. C'est un vaccin homologué qui est bien connu, qui est adapté à riposter contre cette maladie. Pourquoi on a organisé cette campagne de vaccination? Il y a un problème de santé publique. Il y a des enfants qui ont déjà le poliovirus sauvage. Ce sont des informations que nous ne devons pas cacher à notre population.
Clôture hier mardi à Kinshasa du séminaire technique de l'Association internationale de sécurité sociale. Les participants venus des pays d'Afrique centrale ont décidé de mettre en place une étude des stratégies de la couverture sociale dans leur sous-région. Leur souci est de maximiser le taux d'accès aux services de sécurité sociale dans leurs pays respectifs. Les explications de Blaise Ndongala.
Les participants à ces forums de 2 jours ont admis que la volonté politique des pouvoirs publics reste un levier important pour l'extension de la couverture sociale en Afrique centrale. C'est ainsi qu'ils ont invité leurs gouvernements respectifs à mettre en place des cadres juridiques et légaux afin d'encourager l'assurance volontaire et la culture de la sécurité sociale. Ces séminaristes ont également souhaité voir leurs États placer la sécurité sociale parmi les priorités de leur politique gouvernementale. Ils ont en outre appelé à la mise en place des stratégies innovantes pour l'identification des populations non encore couvertes dans cette partie du continent. Le DG de la CNSS, Jean-Simon Fouti, a fait savoir que l'extension de la couverture de la sécurité sociale est un processus long qui passe, entre autres, par l'amélioration de la qualité des prestations en faveur des assurés. De son côté, le secrétaire général à la prévoyance sociale a exprimé son vœu de voir les recommandations issues de ses travaux être suivies d'actes concrets. À la clôture de ces séminaires, les délégations venues d'autres pays d'Afrique centrale n'ont pas oublié de saluer l'hospitalité légendaire des peuples congolais.
La ville de Kinshasa accueille du 24 au 26 mai la table ronde sur la gouvernance du secteur minier. Ce forum entend restituer les recommandations des conférences minières tenues en 2021, tour à tour à Bunia en Ituri, à Bukavu au sud Kivu et à Goma au nord Kivu. La ministre des Mines a expliqué que la rencontre qui se tient à Kinshasa offre l'opportunité de relever les défis qui se posent avec acuité dans ces 3 provinces. Antoinette Nsamba se dit également convaincue qu'à l'issue de ces assises, sortiront des stratégies de nettoyage de la chaîne d'approvisionnement des minerais du pays.
Cette table ronde devra permettre, entre autres, l'amélioration de notre compréhension des défis qui minent la gouvernance du secteur minier dans les 3 provinces concernées, d'entreprendre des actions pour y remédier, de renforcer le partage d'informations, de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations dans le but d'assainir le secteur. Soyez rassurés, chers participants, de l'attention particulière que j'accorde à ces 3 journées de travaux intenses que vont devoir abattre toutes les parties prenantes. J'ai la conviction qu'après ces échanges, toutes les parties prenantes s'approprieront les recommandations issues de cette table ronde afin de rendre propre la chaîne d'approvisionnement de nos mineurs. Je tiens à réitérer mes remerciements et mes souhaits de bienvenue à tous les participants qui sont venus des provinces concernées.
Notez que cette activité est organisée par la cellule technique de coordination et de planification minière en collaboration avec le consortium Madini, Kwaamani na Maendeleo et l'USAID.
Actualité internationale.
Aux États-Unis, 21 personnes ont été tuées, 19 enfants et 2 adultes dans la fusillade qui a endeuillé mardi 24 mai une école primaire du Texas. Le suspect, un jeune homme âgé de 18 ans, a tué 19 enfants et 2 adultes d'une façon atroce et insensée dans la ville d'Uvalde, a déclaré le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, lors d'une conférence de presse. Plus d'une douzaine d'élèves sont encore hospitalisés. La Somalie attend encore la désignation par le nouveau chef de l'État, d'un premier ministre et d'un gouvernement. D'ores et déjà, l'entourage du président a été nommé, ainsi qu'un chef des services de renseignement. Et mardi 24 mai, Hassan Cheikh Mohamud, élu le 15 mai dernier, a confié une mission d'envergure à l'un de ses rivaux à l'élection présidentielle dans le cadre des priorités du chef de l'État, à savoir résoudre de toute urgence les défis de la sécheresse liés au climat, selon le communiqué de ses services.
L'invité.
Le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique qui coïncide avec la création de l'Organisation de l'Unité Africaine OUA le 25 mai 1963, qui ensuite est devenue l'Union Africaine. À cette occasion, notre invité est le professeur Nopeski Biswa, spécialiste en analyse, résolution des conflits et prévention du génocide. Il s'exprime sur les causes des conflits enregistrés en Afrique, ainsi que l'insécurité qui prévaut dans l'Est de la RDC, en y proposant des solutions. On écoute le professeur Nopeski Biswa que nous avons interrogé. Professeur Nopeski Biswa, bonjour.
Bonjour Alain.
L'Afrique est parsemée des conflits. Comment analysez-vous toutes ces situations qui mettent en mal la paix et le vivre ensemble en Afrique?
Je n'ai pas beaucoup de mots à donner pour ça. C'est d'abord la pauvreté. C'est la pauvreté qui alimente la plupart des conflits que nous avons. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Et les politiciens exploitent la pauvreté de leur population pour les uns s'éterniser au pouvoir ou tenter de s'éterniser au pouvoir, et les autres qui ne sont pas bien servis, notamment les militaires, comme ils ont les armes, ils peuvent les détrôner. C'est ce qui explique les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et lorsque le politicien trouve qu'il va perdre le pouvoir, il développe des mécanismes pour essayer de résister. C'est ce qui se passe en Éthiopie, parce que les TPLF, c'est constitué de groupes ethniques, une minorité qui a dirigé l'Éthiopie pendant plusieurs années. Et lorsqu'elle se trouve en situation où elle n'a plus le pouvoir, elle résiste et la guerre éclate.
Professeur, parlons à présent de la RDC où l'insécurité persiste dans l'Est malgré les multiples efforts des autorités, tant nationales que provinciales, sans compter les efforts de la communauté internationale. Que faut-il selon vous pour que la paix revienne dans cette partie du pays en tant que spécialiste en matière de résolution de conflits?
Ce que je voudrais, et là mon appel est celui de demander aux autorités de réfléchir sur comment implanter les mécanismes de prévention de conflits plutôt que d'attendre toujours que les conflits éclatent pour commencer à chercher à la va-vite des solutions pour essayer de contenir le conflit. Il est mieux de prévenir les conflits, on va dépenser moins de moyens que de les résoudre et surtout de les transformer en opportunités de développement.
Concrètement, par exemple, là, le gouvernement parle beaucoup de justice transitionnelle ces derniers temps, également du processus de démobilisation, de réinsertion. Est-ce que ça peut faire partie de ce plan ou de ce projet dont vous parlez?
Justement, oui. La justice transitionnelle fait partie de mécanismes de prévention de conflits en aval. Et résoudre un conflit, c'est extirper les racines du conflit. Si vous n'enlevez pas les racines du conflit, il sera toujours là. Alors, vous extirpez les racines du conflit et vous transformez en opportunité de développement ces racines-là. Et dans cela, il y a des mécanismes de mémoire. Il faut savoir, il faut toujours que l'on plante quelque part des éléments qui vont rappeler à chaque citoyen, à la communauté, que quand nous sommes allés dans telle direction, voilà là où nous sommes arrivés, il y a un monument, il y a des chansons, il y a plusieurs cérémonies qui vont toujours rappeler aux gens, on ne va pas là-bas. Mais aussi, toujours dans la justice transitionnelle, il y a la responsabilité de réparer, du pardon et de la vérité pour savoir, vous avez fait quoi? Vous admettez, on vous pardonne, on restaure les relations qu'il y a entre les personnes qui se sont battues, c'est ce qu'on appelle la réconciliation.
Quel message adresseriez-vous à tous ces jeunes qui sont enrôlés dans les groupes armés et qui tuent d'autres Congolais?
Malheureusement, moi personnellement, je peux leur dire qu'ils se trompent. Je peux leur parler, mais c'est seulement de la bouche. Mais si le gouvernement ne fait pas sa part, je donne un exemple. Pensez-vous si on implantait des entreprises qui donne du travail à Minembwe, à Nitouri, à Beni. Pensez-vous qu'il y aurait tout ce qui se passe? Non. Les gens seront plus occupés à aller à leur travail, à chercher comment faire l'argent et qu'on sort, plutôt que d'aller dans les forêts. Donc, jeunes gens, vous êtes en train de tuer votre propre avenir en allant dans les groupes armés. Et, s'il vous plaît, regardez dans la bonne direction, allez à l'école plutôt que d'aller dans les groupes armés. Si vous pouvez aller au champ, c'est mieux plutôt que d'aller dans les groupes armés. Mais l'État, monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, vous avez la responsabilité de mettre en place des mécanismes qui vont aider ces jeunes gens à réellement trouver les réponses à leurs problèmes vitaux de chaque jour dans leurs familles respectives. Et c'est cela qui va nous éviter les groupes armés et consorts.
Professeur Nopes Kibiswa, merci. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix.